Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions.
L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato.
Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato.
On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode, c'est Florence derrière le micro. Aujourd'hui, on accueille sur Chronique Sophie Janvier, diététicienne nutritionniste, pour nous parler alimentation et endométriose. Elle nous expliquera comment une diététicienne peut accompagner et aider les patientes, quel type d'alimentation privilégier et des conseils pour adapter son alimentation au quotidien. Je vous laisse avec notre conversation et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast Chronique de Mapato. On est ravis de t'accueillir pour cette nouvelle épisode.
Bonjour, je suis ravie également.
Merci beaucoup. Voilà, alors pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous dire, raconter un petit peu ton parcours, nous donner ton nom, ton prénom, ta profession et du coup, ce que tu fais dans la vie.
Alors, je suis Sophie Janvier, je suis diététicienne nutritionniste à Paris, 6 place Saint-Michel. Je consulte également en vidéo sur Doctolib et je suis spécialisée dans l'alimentation anti-inflammatoire, mais aussi l'alimentation à index glycémique bas, le comportement alimentaire. J'ai un DU, diplôme universitaire de nutrition thérapeutique. Je prépare d'ailleurs, je finalise même un programme sur l'alimentation anti-inflammatoire en ligne. Et j'aime bien dire aussi que je suis fille et sœur de chef, ce qui veut dire aussi que pour moi, le plaisir dans l'assiette, ça n'est pas négociable. J'ai d'ailleurs été aussi rédactrice en chef d'un magazine de cuisine. J'ai encore quelques activités journalistiques puisque je tiens une chronique nutrition dans Top Santé tous les mois. Et j'anime aussi des webinaires pour les institutions ou les entreprises sur l'alimentation santé.
Ok, super intéressant. Je crois qu'on va pouvoir en savoir pas mal sur l'alimentation et l'endométriose. Justement, donc, on sait que l'alimentation, on en entend beaucoup parler, on est de plus en plus sensibilisé, que ça joue quand même un rôle important sur la santé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le lien entre l'alimentation et la maladie chronique ?
Alors, tu sais, Florence, le lien, il est aujourd'hui vraiment avéré, hein. Si tu regardes par exemple ce qu'écrit l'INSERM, qui est quand même un institut ô combien sérieux, hein, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, il écrit noir sur blanc hein, que la plupart des maladies chroniques récentes ont un lien avec la nutrition. Alors la nutrition au sens large, c'est-à-dire l'alimentation et l'activité physique. Et en 2017, il y a eu un groupement d'experts scientifiques qui a essayé de classer sur les 25 dernières années quelles étaient les principales causes de mortalité prématurée. Et c'est l'alimentation qui arrive en tête. Donc voilà, on n'a pas vraiment de doute hein, sur la question. On a aujourd'hui beaucoup d'études scientifiques qui montrent que notre régime de type occidental, c'est-à-dire un régime plutôt riche en sucre, en graisse de mauvaise qualité, mais aussi en aliments ultra transformés, en additifs. Tout ça, ça forme quand même un cocktail qui malheureusement favorise les maladies chroniques, notamment parce que ce cocktail va favoriser l'inflammation chronique.
D'accord. Concernant l'endométriose, quel peut être le rôle d'une diététicienne sur le suivi du coup des patientes ?
Bah, écoute, le rôle d'une diététicienne, c'est déjà justement de sensibiliser hein, à ce lien entre alimentation et santé. Et puis, mais c'est de le faire vraiment avec écoute, avec bienveillance. Moi, je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Je fais d'abord un gros bilan sur les habitudes de vie, les habitudes alimentaires évidemment, mais pas seulement. Sur le ressenti par rapport à la maladie, sur aussi les liens émotionnel, intime avec l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est pas seulement des nutriments que tu mets dans ton assiette ou même des aliments, mais c'est vraiment lié à toute une histoire. Donc, la diététicienne, c'est ça aussi, c'est vraiment de recréer toutes ces connexions entre alimentation, effet sur la santé, rythme de vie, et d'essayer finalement de trouver les plus petits changements qui vont permettre le plus gros impact. Moi, c'est ça que j'essaie vraiment de faire. Je propose pas des régimes, justement, au sens où il faudrait absolument tout changer et se contraindre, parce qu'en général, ça marche pas. Et puis, l'idée, c'est pas de rajouter encore davantage de contraintes à des femmes qui ont déjà pas mal sur le dos. Donc, c'est plutôt d'essayer de trouver des petites stratégies qui vont permettre d'atténuer des symptômes, voire d'inverser certaines problématiques au niveau de la santé. Et c'est vraiment dans cette direction que je travaille, moi.
D'accord. Donc, du coup, il y a un bilan à la première consultation. On déblaye un peu tout l'alimentation au quotidien, les relations, l'histoire de l'alimentation de la patiente. Et après, donc, il y a des consultations de suivi qui se font.
C'est ça. En fait, à la première consultation, en général, ce que je propose, c'est de faire un journal alimentaire, mais photographique. Ce que je dis toujours, c'est que le changement, c'est pas la volonté, c'est l'observation. Et donc, j'invite mes patientes à faire des photos de ce qu'elles mangent pour justement qu'elles aient un peu ce recul par rapport à ce qu'elles mettent dans l'assiette et qu'on puisse ensuite débriefer ensemble, qu'on puisse regarder le contenu de cette assiette. Et souvent, ça a de l'impact déjà elles-mêmes pour les patientes qui se disent « Ah, mais j'imaginais pas que si ou que ça ». Et moi, en regardant ces assiettes, je peux leur permettre de voir qu'il y a des petites améliorations possibles, encore une fois, sans faire des très, très gros changements. Mais des petites… par exemple, je dis souvent… votre assiette, elle a quelle couleur ? Et on me dit, je sais pas, c'est blanc, c'est jaune. Je dis, ouais, c'est un petit peu monochrome, non ? Ce serait peut-être sympa de mettre quelques couleurs un peu supplémentaires, ça serait plus joli à l'œil. Et puis, plus de couleurs, ça veut dire aussi plus d'antioxydants, plus de nutriments intéressants pour la santé. Et voilà, cet aspect visuel aussi, ça aide mes patientes à s'orienter dans la bonne direction.
Ah oui, c'est génial. C'est en fait au lieu d'un journal. C'est vrai qu'on parle beaucoup de écrire, faire un journal, effectivement pour écrire et pouvoir faire un bilan après de ce qu'on mange. Et donc, du coup, toi, tu leur fais prendre des photos de leur assiette qu'elles amènent en consultation et du coup, vous regardez ça ensemble pour pouvoir analyser.
Exactement. Alors, ce qui n'empêche pas, si elles en ont envie, d'écrire également. Tout est toujours bon pour, encore une fois, être dans l'observation de ce qu'on a fait dans son alimentation. Mais je trouve qu'effectivement, cette solution des photos apporte encore davantage et ça permet de vraiment des prises de conscience.
D'accord. Très intéressant. Donc, pour en revenir à l'endométriose, est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, l'alimentation peut influencer, du coup, sur les symptômes de l'endométriose ?
Alors, déjà, Florence, en préambule, j'ai envie de te dire que moi, ma façon de travailler, c'est vraiment aussi de m'appuyer sur la littérature scientifique. Et malheureusement, de ce côté-là, c'est pas encore totalement d'une fiabilité totale. On a un certain nombre d'études de plus ou moins bonne qualité, souvent avec des échantillons assez modestes, donc c'est compliqué d'en tirer des conclusions définitives. Mais ceci étant dit, on a quand même un certain nombre de faisceaux d'indices, et notamment, on peut dire avec quand même pas mal de certitude qu'une alimentation de type anti-inflammatoire va être un moyen de favoriser une prévention de l'endométriose, donc d'éviter d'en avoir, mais aussi d'améliorer un certain nombre de symptômes une fois qu'on a de l'endométriose. On a par exemple des études qui montrent que si on favorise des graisses anti-inflammatoires, les fameux oméga-3, j'imagine que comme tout le monde, tu en as entendu parler. Voilà, donc ces fameux oméga-3, il n'y a aucun doute sur la question. On sait aujourd'hui de manière claire et définitive qu'ils sont anti-inflammatoires, qu'ils favorisent un terrain anti-inflammatoire. Donc, on a vraiment toutes les raisons de préconiser de manger notamment des petits poissons gras riches en ces acides gras anti-inflammatoires. Je dis bien petits poissons, puisque les plus gros, comme le thon ou le saumon, malheureusement, vont aussi être un peu pollués. Et ça va favoriser d'une autre manière l'inflammation. Donc, plutôt favoriser les sardines, par exemple, ou les maquereaux, les petits poissons, ou des huiles riches en oméga-3. Voilà, ça, on sait que c'est fiable. De la même manière, on sait aussi qu'une alimentation riche en antioxydants et en vitamine E va aussi favoriser un terrain anti-inflammatoire. Donc, tu sais, les antioxydants, c'est ces petites molécules qui vont contrer d'autres molécules qui sont les radicaux libres. Et les radicaux libres, ça oxyde les cellules, ça favorise le vieillissement. Alors tu vas me dire, mais quel rapport avec l'inflammation ? Et ben en fait, quand il y a attaque des radicaux libres, ce qui se passe, c'est que les médiateurs de l'inflammation sont alertés. Attention, agression, attaque, on se mobilise. Donc ils arrivent et ils viennent faire leur boulot, hein, leur job. Voilà. Ce qui est plutôt une réaction saine de l'organisme quand c'est ponctuel. Le problème, c'est quand l'inflammation, elle devient chronique, quand elle est tout le temps là. Et donc si on a trop d'oxydation de nos cellules, trop de radicaux libres, une alimentation trop pas assez riche en antioxydants, eh bien là, ça devient problématique. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir cette alimentation riche en antioxydants, c'est-à-dire riche en fruits et légumes, hein, c'est la principale source d'antioxydants, mais aussi en épices, mais aussi en herbes, par exemple, saupoudrer ces plats de basilic ou de coriandre, c'est une bonne source d'antioxydants. Et pour la vitamine E, on peut aussi aller la chercher, par exemple, dans les fruits à coque, qui sont aussi d'ailleurs une bonne source d'antioxydants. Donc ça, c'est des choses avérées. Après, il y a des choses un petit peu plus qui restent encore sujets à hypothèses. Par exemple, la question du gluten. Je suis sûre que parmi nos auditrices, il y a un certain nombre de femmes qui se posent la question, alors, est-ce qu'il faut supprimer le gluten ? Donc, par exemple, là-dessus, on n'a pas d'études au sens le graal des études, c'est-à-dire les études randomisées avec groupe témoin, etc. En revanche, on a récemment eu une petite étude témoin sur un petit nombre de patientes, mais qui ont quand même été suivies pendant 12 mois, et c'était des patientes qui avaient arrêté le gluten. Et à l'issue de ces 12 mois, on leur a demandé « Est-ce que vous vous sentez mieux d'avoir arrêté le gluten ?» Des patientes qui, bien sûr, avaient de l'endométriose. Et 75% de ces patientes ont dit « Oui, je me sens mieux ». Bon, donc c'est quand même un point à prendre en considération. Après, on n'arrive pas vraiment à prouver le lien direct entre l'arrêt du gluten et ces symptômes qui se sont améliorés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une autre étude qui nous dit, plusieurs d'ailleurs même, qui nous disent que des femmes qui ont adopté un régime pauvre en FODMAP, je ne sais pas si tu sais ce que c'est les FODMAP.
Non.
Donc les FODMAP, c'est des glucides, des sucres en quelque sorte, qui fermentent dans l'intestin et qui, chez certaines personnes, vont provoquer des gaz, des ballonnements, des douleurs. Et on a remarqué qu'un certain nombre de femmes avec de l'endométriose avaient ce type de symptômes qui sont proches, hein, des symptômes de l'intestin irritable et qui sont liés notamment aussi au fait que l'endométriose peut avoir des atteintes digestives, hein, quand on a une endométriose profonde notamment. Et donc, on a remarqué que ces femmes, elles allaient mieux aussi quand elles avaient un régime pour en FODMAP. Or, parmi les FODMAP, il y a une catégorie qui s'appelle les fructanes et qui est une catégorie qu'on trouve exactement dans les mêmes céréales que les céréales pauvres en gluten.
D'accord.
Autrement dit, il y a peut-être une confusion. Peut-être qu'on n'est pas forcément sensible au gluten, mais à ces fructanes qu'on trouve aussi dans le blé, dans l'orge ou le seigle, comme le gluten. D'autant plus que ces femmes, parfois aussi, ont des difficultés avec les produits laitiers. Et les produits laitiers, ça contient du lactose, un autre FODMAP. Donc, ça fait quand même un faisceau d'indices qui laisse à penser que peut-être le problème vient des FODMAP. Tout ça pour dire que faire des régimes d'éviction, pourquoi pas, mais attention, c'est bien de le faire encadrer par un professionnel pour essayer de voir si, effectivement, on suit bien la bonne piste. Et typiquement, sur la question des produits laitiers, là, ça fait partie aussi des sujets à controverse, si on regarde les études. Il y a une étude plutôt de bonne qualité, qui dit que les produits laitiers seraient plutôt, au contraire, la consommation de produits laitiers protégerait du risque de l'endométriose. Et à l'inverse, on a un certain nombre de recherches et d'analyses sur le lait qui nous disent, mais quand même, le lait, c'est pas un aliment qui semble avoir beaucoup d'intérêt quand on a une endométriose. Pourquoi ? Parce que le lait, par exemple, ça contient des acides gras saturés et des acides gras trans, deux types d'acides gras qui sont pro-inflammatoires. On sait notamment sur les acides gras trans que c'est, alors là aussi il y a des études, que c'est vraiment hyper pro-inflammatoire et que c'est vraiment à éviter quand on a de l'endométriose. Donc ces acides gras trans, on les trouve notamment dans les viennoiseries industrielles ou les biscuits sous l'appellation matière grasse hydrogénée ou partiellement hydrogénée. Quand vous voyez ça sur une étiquette, vigilance, voilà. Or, ces acides gras trans, on en trouve aussi de manière naturelle dans le lait. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est pas génial. Par ailleurs, le lait, ça contient aussi des facteurs de croissance, des hormones, notamment des œstrogènes, dont on sait que c'est un peu le carburant des cellules endométriosiques. Donc là aussi, on a envie de se dire, bon, c'est pas idéal. Le lait contient aussi des molécules allergisantes comme la caséine. Alors, elles sont pas allergisantes, c'est tout le monde, hein, loin de là. Mais il y en a une, notamment la caséine A1, qui peut provoquer des symptômes et favoriser la porosité intestinale. Puis enfin, il y a ce lactose dont on sait qu'il peut être sujet à intolérance. Donc tout ça, c'est un faisceau de... C'est pas un faisceau de preuves, mais c'est un faisceau de composition du lait qui laisse à penser que c'est pas forcément l'aliment idéal quand on a de l'endométriose. Mais néanmoins, c'est pas prouvé scientifiquement. Encore une fois, on n'a pas d'études qui nous disent le lait, c'est mauvais pour l'endométriose. Donc tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, ce que je peux retenir là de ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, on voit carrément l'intérêt d'être accompagné par un professionnel de santé, parce que c'est hyper complexe, quoi. C'est hyper complexe. Du coup, là, donc, on a parlé des aliments riches en oméga 3, le gluten, les antioxydants, les FODMAP. Donc, enfin, ouais, ça mérite vraiment approfondissement, études, de se renseigner, d'être au fait des dernières études scientifiques qui, j'imagine, du coup, évoluent beaucoup, qui peut-être éventuellement, comme tu disais, se contredisent. Donc, déjà, on voit vraiment l'intérêt d'être suivi par une diététicienne. Et effectivement, on a envie de dire, bah oui, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis j'imagine que, comme tout ce qui concerne le domaine de la santé, c'est d'avoir des prises en charge très individualisées, parce qu'on, j'imagine qu'on réagit pas tous pareil, même avec la même maladie, il y a autant de femmes que d'endométriose. Donc du coup, c'est peut-être de faire des essais, j'imagine.
Exactement, tu as complètement raison. Je pense qu'il faut pas se lancer tête baissée dans un régime d'éviction comme ça. On peut faire quelques tests sur quelques jours, idéalement encore une fois encadrés, et voir un petit peu comment ça répond. Mais voilà, ces tests, c'est pareil, il faut les faire d'une manière qui permette d'avoir un diagnostic. Donc voilà, si tu sais pas que un certain nombre de produits industriels contiennent mine de rien du gluten ou des fructanes, ou si tu sais pas que le fromage par exemple, ça contient plus de lactose parce que les ferments lactiques ont prédigéré le lactose. Bon bref, si tu as pas toutes ces connaissances là, tu vas pas forcément faire le bon diagnostic parce que tu vas pas forcément faire les bons tests. Donc c'est pour ça effectivement que c'est intéressant. Donc pour revenir sur la question des produits laitiers par exemple, moi j'ai envie de dire que si vous avez envie de supprimer le lait pour voir ce que ça donne, pourquoi pas ? Ça peut être une bonne idée de voir ce que ça donne. Mais si vous voyez aucune amélioration, voilà, il n'y a pas forcément une obligation à continuer de limiter les produits laitiers. En tout cas, le lait, moi, j'ai plutôt tendance à dire que le lait, on peut s'en passer quand on est adulte. Mais les produits laitiers fermentés, le fromage par exemple, voire le yaourt, qui contient encore un peu de lactose, mais un peu moins, c'est des produits aussi qui ont pas mal d'intérêt. Au-delà du calcium, qui est en général l'étendard qu'on lance sur les produits laitiers, mais on peut en trouver ailleurs. Donc bon, c'est pas forcément pour moi le plus important. Mais dans les fromages, tu as notamment des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries vivantes qui vont être favorables à ton microbiote. Et là aussi, on sait à quel point avoir une flore intestinale en bonne santé, c'est aussi un bouclier contre l'inflammation. Donc voilà, il faut faire la balance coût-bénéfice. Donc moi, je considère que les produits laitiers fermentés un ou deux par jour, c'est plutôt une bonne idée. Le lait tout court, c'est pas indispensable. Voilà. Mais encore une fois, le mieux c'est de tester, quoi.
D'accord. Donc du coup, tu as parlé de l'alimentation donc anti-inflammatoire en nous expliquant un petit peu le mécanisme, comment ça va agir. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus, nous expliquer ce qui se passe du coup dans notre corps, comment cette alimentation-là va pouvoir aider à lutter du coup contre l'inflammation ?
Oui, encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, en gros... Si tu privilégies une alimentation pas mal végétale, riche en fruits et légumes, en légumineuses, en fruits à coque, tu vas apporter beaucoup d'antioxydants, donc tu vas limiter l'inflammation. Tu vas aussi apporter beaucoup de fibres, notamment aussi si tu prends des céréales complètes. Et ces fibres, c'est intéressant aussi parce que ces fibres, ça va être le carburant de nos bonnes bactéries. Hein, elles se nourrissent de ces fibres, donc ça va avoir là aussi comme effet d'avoir un microbiote en bonne santé. Ce microbiote en bonne santé va faire que les bonnes bactéries vont être en capacité de lutter contre les mauvaises, donc de limiter aussi de l'inflammation. Et ces bonnes bactéries aussi vont avoir suffisamment de carburant pour ne pas aller se nourrir du mucus, tu sais, cette espèce de liquide visqueux qui tapisse la paroi intestinale. Et quand elles n'ont pas suffisamment de fibres, elles grignotent le mucus, d'où porosité intestinale et d'où là aussi problématique d'inflammation. Donc tout ça est très holistique, hein, tout ça est un équilibre. Donc pour résumer, je disais fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses, riches en fibres, riches en antioxydants. Après, privilégier les bons acides gras, donc plutôt des graisses végétales, à la fois des graisses végétales de type huile d'olive, parce que c'est très riche en antioxydants. Problème de l'huile d'olive, c'est que ça contient pas d'oméga-3, donc c'est bien d'y associer des huiles riches en oméga-3, comme l'huile de colza, de lin, de noix. Et puis des petits poissons gras qui vont être eux aussi riches en oméga 3. Tu peux aussi aller chercher des aliments lacto-fermentés, donc naturellement riches en probiotiques, comme le yaourt, si on supporte un peu le lait, mais aussi le kéfir, les boissons fermentées type kombucha, ou les légumes fermentés qu'on peut trouver ou fabriquer soi-même, qui vont apporter aussi des bonnes bactéries. Et sachez aussi que ce qui est intéressant, c'est par exemple le pain au levain naturel. Le pain qui a été fabriqué avec du levain, pas avec de la levure. Là aussi, ça va apporter des bons probiotiques, ça va nourrir favorablement le microbiote. Et souvent aussi, on remarque que pour les gens hypersensibles au gluten ou au fructane, ça passe plutôt pas mal, le pain au levain naturel, parce que là aussi, les ferments ont prédigéré une partie du gluten ou des fructanes. Donc, c'est plutôt ce que je favoriserais comme alimentation. Et à l'inverse, limiter les produits industriels, les produits trop riches en sucre, en graisse trans, les fameux acides gras hyper pro-inflammatoires. Et puis, on va dire prudence sur la viande rouge. Ça ne veut pas dire qu'il faut la bannir totalement, mais on en mange avec modération, une fois par semaine, par exemple. Le lait, on peut en boire, mais pas trop, quoi. Voilà.
D'accord. Ouais, donc on voit quand même, c'est un peu rassurant de se dire qu'en fait, c'est une alimentation à adapter, mais on a quand même un riche panel d'aliments qu'on peut manger pour se protéger un petit peu de cette inflammation. Et j'ai juste une question, le pain au levain naturel, il faut le fabriquer soi-même ou ça se trouve en boulangerie ou...
Non, ça se trouve dans les bonnes boulangeries artisanales. D'accord. Ce n'est pas toujours indiqué par le boulanger, c'est dommage d'ailleurs. Donc le mieux, c'est de lui demander, vous le faites avec quoi votre pain? Avec de la levure ou avec du levain naturel? Parfois d'ailleurs, dans la même boulangerie, tu peux avoir des pains avec de la levure et des pains avec du levain naturel. Par contre, ce qui est certain, c'est que tous les pains que tu vas acheter au supermarché, ils seront faits avec de la levure.
D'accord. Voilà. Les gens bannissent les supermarchés.
Oui. Voilà. Donc, effectivement, là, ce n'est pas l'idéal. Mais maintenant, de plus en plus de boulangeries artisanales font ce pain au levain naturel. Donc, c'est plutôt intéressant d'aller aussi vers ça.
D'accord. Donc, du coup, une alimentation à adapter. J'imagine que c'est tout un apprentissage. Du coup, on va pouvoir bénéficier d'une éducation thérapeutique, du coup, en venant voir une diététicienne. Qui peut être adaptée à la maison. Est-ce que tu aurais, par contre, des conseils pour gérer ça quand on mange à l'extérieur, pour les dîners en famille, les dîners chez des amis ou au restaurant, pour justement pas s'isoler à cause de ce qui peut paraître quand même comme des contraintes pour l'extérieur de la maison?
Alors tu sais, moi je dis souvent que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, il ne faut pas non plus être jusqu'au boutiste. Et tu as raison, il faut pouvoir garder une vie sociale, pouvoir ne pas ajouter des contraintes inutiles. Donc en fait, dans ces cas-là, moi j'ai deux options en quelque sorte à proposer. Première option, t'as remarqué que effectivement quand tu manges un peu plus inflammatoire, c'est pas l'idéal, t'as éventuellement un peu de symptômes, etc. Mais c'est gérable. Bon, si c'est gérable, moi j'ai envie de dire profite. Si c'est ponctuel et que tu vas chez des amis, te prends pas la tête, profite de ton repas, t'ajusteras dans les jours qui viennent, etc. Évidemment, si c'est répété, c'est une autre histoire. Mais si c'est ponctuel et que, encore une fois, les symptômes que tu ressens après ce type de dîner ne sont pas énormes. C'est pas en une fois que tu vas faire exploser ton terrain inflammatoire, hein. Ok. En revanche, si tu es dans la deuxième option, à savoir que tu dégustes, que le lendemain tu en payes le prix d'avoir effectivement mangé d'une manière plus classique, ben une des options, ça peut être si t'es au restaurant, d'essayer de choisir des plats qui sont un peu plus on va dire sans risque. Par exemple, typiquement, tu prends une viande blanche ou un poisson avec du riz et des légumes, t'as pas beaucoup de risque d'avoir de problèmes. Et si t'es invité chez des amis ou en famille, bah, tu peux de manière très tranquille dire « Ah, bah, ça me ferait plaisir d'apporter un plat. Si tu veux, j'apporte l'entrée ou j'apporte le plat ou j'apporte le dessert. » Et au moins, t'as au moins une option qui correspond un petit peu à ce que tu as l'habitude, toi, de te proposer comme alimentation. Voilà. Mais encore une fois, pas de panique, hein. L'alimentation, d'abord, c'est pas magique. Il y a aussi, il faut le dire de manière très transparente, des femmes chez qui ça apporte pas un bénéfice phénoménal non plus, déjà. Et c'est pas parce qu'on aura mangé une fois de temps en temps un bon burger ou je ne sais quoi, un bon brownie au chocolat, on va avoir ruiné ses capacités à prendre soin de soi, quoi. Voilà, faut savoir raison garder, quoi.
Ça, c'est très agréable à entendre. Donc, du coup, on parle de plaisir, du coup, d'alimentation à plaisir. Donc, du coup, là, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut continuer à se faire plaisir tout en adaptant quand même son alimentation.
Oui, comme je te l'ai dit en introduction, pour moi, c'est fondamental, hein, de conserver ce plaisir. Après, il y a aussi des moyens d'adapter la manière dont on cuisine, mais tout en conservant le plaisir. Par exemple, si tu adores la pâtisserie, les gâteaux, et tu te dis « Oh là là, le sucre, c'est terrible, c'est pro-inflammatoire, etc. » Petite nuance, ce qui est pro-inflammatoire, c'est l'excès de sucre. Ouais. D'accord ? Voilà. Et en général, de toute façon, c'est l'excès toujours qui est problématique. Donc, ça ne veut pas dire « Je n'ai plus le droit de manger de sucre ». Il ne faut pas comprendre ça. Si on respecte les recommandations pour la population générale, notamment les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que on peut manger entre 25 et 50 grammes de sucre ajouté par jour, c'est-à-dire entre 5 et 10 morceaux de sucre, l'équivalent entre 5 et 10 morceaux de sucre, bon, idéalement plutôt 5, ça veut dire qu'on peut quand même en manger déjà d'une part.
5 morceaux de sucre par jour.
Ouais.
Ah, d'accord.
Ça paraît peut-être beaucoup, mais ça va vite, hein. Ça va très vite.
Parfois, je me dis, ah, super, mais.
Parfois, la plupart d'entre nous, on les a déjà consommés au petit déjeuner, hein. Il suffit que t'aies mangé des céréales un peu sucrées, que t'aies bu un chocolat chaud et un jus d'orange, c'est fini. Donc, voilà. On s'emballe pas non plus. C'est pas non plus énorme comme marge de manœuvre, mais c'est une marge de manœuvre. Donc, moi, ce que je conseille, par exemple, si t'aimes la pâtisserie, c'est idéalement de la faire maison. Et du coup, d'apprendre à désucrer un peu. Moi, je considère qu'on peut très facilement, par rapport aux recettes qu'on trouve un peu partout, enlever 20% du sucre de la recette sans que ça impacte la structure de ton gâteau, de ton dessert. Évidemment, ça va avoir un goût légèrement moins sucré, c'est évident, mais ça va rester agréable. Et puis, par ailleurs, tu peux enrichir ton gâteau en choisissant des farines de bonne qualité, des farines riches en fibres. J'ai dit tout à l'heure, hein, ce que je pensais des fibres. Donc, par exemple, si tu prends des farines de sarrasin, des farines, même des farines de blé, si tu supportes le gluten ou les fructanes, mais dans ce cas-là, riches en fibres, genre T110, ou si tu prends une farine de pois chiche pour faire une quiche, par exemple. Voilà, ça va être des farines riches en fibres qui vont donc plus intéressantes dans le cadre de cette alimentation anti-inflammatoire, mais qui vont quand même te permettre de faire ta quiche, ton gâteau, comme n'importe qui, et de profiter de ce plaisir-là.
Et ça, au niveau du goût, farine de pois chiche
Alors, ça s'adapte à certains types de recettes, évidemment. Tu vois, évidemment, tu vas pas faire. Mais oui, il y a des. De la même manière on peut faire un carrot cake, c'est-à-dire utiliser finalement un légume pour faire un dessert. De la même manière, voilà, il y a des adaptations ça que tu peux faire et qui sont intéressantes. Bon, il y a aussi sûrement beaucoup d'entre vous qui connaissaient déjà le fameux bowl cake, qui est une star d'Instagram, donc qui est cette espèce de petit gâteau qu'on fait à base de flocons d'avoine, de bananes, d'œufs et de lait végétal. C'est typiquement, moi, je trouve, ce genre de petit gâteau qu'on mange au petit déjeuner ou au goûter, un petit gâteau qui reste très plaisant et qui a tout bon sur le plan de la santé. Donc, c'est faisable de se faire plaisir.
Oui, puis c'est très rapide à faire ça, il me semble, le bol cake.
3 minutes au micro-ondes et c'est fini. Quoi.
Ouais, c'est ça
voilà.
Aussi.
Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi que manger plus végétal, c'est des habitudes à prendre, mais ça peut être très plaisant aussi. Dire un curry de légumes avec du curcuma, le fameux, riche en antioxydants aussi, c'est absolument délicieux. Un poke bowl avec plein de légumes colorés et un tout petit peu de poisson cru ou mariné, c'est délicieux. Donc oui, bien sûr qu'on peut se faire plaisir en mangeant anti-inflammatoire.
Ouais, et puis voilà, j'ai bien retenu là ce plaisir des yeux aussi. C'est vrai que bon, moi j'adore manger. Hein. C'est une passion comme pour tout le monde, je pense. Mais c'est vrai qu'on pense vraiment au goût, voilà. Mais voilà, je retiendrai vraiment aussi cette diversité de couleurs dans l'assiette qui peut déjà aider à effectivement être sûr d'être dans la bonne voie, quoi.
Ouais.
Ok, donc du coup, quelqu'un qui veut être suivi par un spécialiste de la nutrition, on l'oriente vers une diététicienne, une nutritionniste. C'est quoi la différence? On peut être les deux, l'un ou l'autre. Ce que je voulais te demander aussi, c'est est-ce qu'il faut une ordonnance d'un médecin? Est-ce qu'on peut y aller de sa propre initiative sans avoir vu donc un médecin avant? Ou est-ce qu'il faut une ordonnance médicale? Et puis, dernière question sur la prise en charge aussi. Est-ce qu'il est possible d'avoir une prise en charge sécu, mutuelle ou...
Alors... oui, on peut aller sans ordonnance consulter un diététicien. L'idée, c'est de prendre soin de sa santé par l'alimentation, donc ça ne nécessite pas d'ordonnance. Ensuite, entre la différence entre diététicien nutritionniste et médecin nutritionniste, c'est une bonne question parce que ça crée beaucoup de confusion. Alors, un médecin nutritionniste, comme son nom l'indique, a fait médecine, ce qui n'est pas le cas d'un diététicien nutritionniste. Mais un médecin nutritionniste n'aura pas fait une spécialité en nutrition. Autant il y a une spécialité pour être gynécologue ou pour être ophtalmo, etc. Tu peux être généraliste et décider demain de te mettre médecin nutritionniste sans avoir fait une spécialité en nutrition.
Ah, d'accord.
Alors, quand même, la plupart des médecins nutritionnistes vont au moins avoir fait un DU, un diplôme universitaire de nutrition qui dure en général 2-3 mois. Mais si tu veux, l'avantage du médecin nutritionniste, c'est que c'est clair que sur le plan anatomique, physiopathologie, évidemment, c'est le must. Voilà, il connaît parfaitement ça, il a étudié ça pendant des années. Je pense que sur le plan strictement de la nutrition, le diététicien nutritionniste est plus technicien sur la manière de traiter l'alimentation stricto sensu. Voilà, maintenant, les deux sont intéressants dès lors qu'ils sont spécialisés sur l'endométriose, qu'ils connaissent bien l'alimentation anti-inflammatoire et puis que vous avez un bon contact avec eux. Parce que ça, c'est fondamental, la relation qu'on a avec le soignant. Voilà, si on est appelé à le voir à plusieurs reprises et à s'ouvrir avec ce professionnel de santé, il faut que cette relation de confiance soit forte. Après, est-ce que c'est pris en charge? Alors, le médecin nutritionniste sera pris en charge par la Sécu, pas le diététicien nutritionniste. Évidemment, je m'en offusque, tu imagines bien.
Ouais, j'imagine.
Mais bon, c'est comme ça. Par contre, effectivement, heureusement, il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge des consultations de nutrition. Chez les diététiciens nutritionnistes, souvent, elles en prennent 2-3 dans l'année, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà. Mais ensuite, voilà, le choix appartient à chacun. L'avantage peut-être aussi du diététicien nutritionniste, c'est que souvent, ils se sont formés pour un grand nombre d'entre eux aussi au comportement alimentaire. Il y a une dimension un peu plus psy qui peut être intéressante, que moi, en tout cas, effectivement, j'applique et je me suis formée à ça. Parce qu'encore une fois, pour moi, l'alimentation, c'est vraiment dans une vision holistique et c'est vraiment connecté à plein de choses très intimes. Voilà.
D'accord. C'est vrai que là, on voit bien que effectivement, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est formé à l'endométriose, à cette alimentation à adapter. C'est pour ça que nous, chez Mapato, du coup, on a des recommandations pour cette pathologie-là, pour l'endométriose, avec des patientes qui ont expérimenté du coup les choses et qui ont eu effectivement aussi des super bons contacts, comme tu disais, avec leurs soignants et qui du coup ont pu essayer d'adapter leur alimentation pour du coup soulager les symptômes. C'est dans la prise en charge globale finalement de la pathologie. Et du coup, on a, c'est vrai qu'on a pas mal de diététiciennes de recommander pour l'endométriose sur Mapato et on vous invite vraiment.
Et j'en suis ravie.
Et voilà, et on t'en remercie d'avoir accepté. Et c'est vrai que voilà, on vous invite à aller sur mapato.com pour aller voir ça. Et si vous avez vous des professionnels de santé, des diététiciennes à recommander, n'hésitez pas du coup à aller en faire profiter la communauté Mapato.
D'ailleurs, Florence, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que je parle beaucoup des études scientifiques, etc., parce que c'est important. Mais le ressenti des patients, des patientes, c'est essentiel. C'est-à-dire que moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit c'est pas prouvé scientifiquement que je ne sais pas quoi, que le gluten, c'est mieux de l'enlever pour l'endométriose, mais moi, ça me fait du bien, j'écoute ça, j'entends ça et je respecte ça, évidemment.
Bien sûr.
Parce que je ne suis pas à la place de la patiente. Donc, ce ressenti des patients est fondamental. Donc, c'est super de partager ces conseils. En revanche, c'est super de partager ces conseils, mais en gardant à l'esprit qu'effectivement, ce qui marche pour l'une ne va pas forcément marcher pour l'autre et que tout dépend aussi de la manière dont on met tout ça en place.
D'accord. Alors, si on se fait un petit résumé, est-ce que tu pourrais nous donner tes principales recommandations pour adapter son alimentation avec une endométriose ?
Oui. Alors, la première, vous l'avez compris, je crois, ce serait de toute façon d'essayer une alimentation anti-inflammatoire parce que, au pire, il n'y aura pas de bénéfice, mais ce sera neutre et c'est sans aucun risque. Parce qu'une alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi ? C'est une alimentation santé. C'est une alimentation très bonne pour la santé, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire, même sans avoir aucune pathologie, c'est de toute façon une très bonne alimentation. Donc, on a zéro risque à essayer d'aller vers une alimentation anti-inflammatoire.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est important de le souligner, que c'est sans risque dans tous les cas.
Voilà. Autant, quand je dis une alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui reste vraiment variée, vous l'avez vu. Hein. Donc, je parle pas de toutes les subtilités de sans FODMAP, sans gluten, je parle vraiment de l'alimentation riche en acides gras anti-inflammatoires, en antioxydants, etc. Donc ça, il y a zéro risque à essayer ça. Ensuite, la deuxième recommandation que je ferai, c'est autant que possible limiter les produits industriels, en particulier les produits dits ultra transformés, c'est-à-dire ces produits qui sont en fait composés d'ingrédients qu'on a mixés, réduits en poudre, en sirop, etc., et qui ont perdu finalement la plupart de leur qualité nutritionnelle et qui ne deviennent que juste des goûts qu'on assemble ensemble et qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour la santé, voire au contraire qui sont problématiques parce qu'ils vont être enrichis en acides gras trans, en sucre, en additifs, voire en perturbateurs endocriniens, en pesticides s'ils ne sont pas bio. Donc, méfiance vraiment avec ces aliments ultra transformés. Méfiance, mais aussi, là encore, pas de panique. C'est-à-dire que si vous en mangez voire une ou deux portions par jour, ça va. En revanche, si vous mangez beaucoup de plats préparés, beaucoup de biscuits industriels, etc., etc., bon, c'est pas favorable, on va pas se mentir.
Ouais, donc, on essaye de cuisiner nous-mêmes quand même dans la mesure du possible et d'utiliser en fait les matières premières pour nous les assembler pour essayer de se faire un petit plat sympa quoi.
Exactement. Après, mon troisième conseil, c'est de rester modéré dans la consommation de viande rouge, de charcuterie et de produits contenant des graisses d'origine animale, sauf les graisses des poissons gras. L'idée, c'est pas forcément de devenir végétarien, plutôt flexitarien, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu de produits d'origine animale, mais pas trop. Mais on peut en manger de temps en temps. Voilà, là aussi, encore une fois, on n'est pas obligé de tomber dans un extrémisme. Mais c'est vrai que les graisses de la viande rouge, etc., sont plutôt pro-inflammatoires, etc. Mon quatrième conseil, c'est une chose qu'on n'a pas tellement évoquée jusqu'à maintenant, mais c'est aussi d'adapter les modes de cuisson quand on peut, parce qu'il y a des modes de cuisson plus inflammatoires que d'autres, notamment les cuissons à haute température. les cuissons au barbecue en particulier, mais pas que, au four par exemple à haute température ou grillé à haute température, ça va dégager un certain nombre de composés reconnus toxiques pour tout le monde, mais encore plus problématique pour les femmes qui ont de l'endométriose parce que inflammatoire. Ces composés, ça va être, alors les termes sont techniques, mais notamment de l'acrylamide ou des produits de glycation avancée, et c'est par exemple le cas des céréales qui ont été dorées au four, ou des chips, ou des choses comme ça, à haute température. Donc là aussi, c'est pas parce qu'on en mange un tout petit peu de temps en temps que c'est problématique, mais si on en mange régulièrement, trop souvent, oui, ça favorise un terrain inflammatoire. Et chez soi, l'idée, c'est effectivement de plutôt privilégier des cuissons à température douce. Bon, il y a évidemment la vapeur, mais pas seulement. On peut cuire à l'étouffée, on peut cuire au bain-marie. Voilà, toutes ces cuissons qui vont en papillote, toutes ces cuissons qui vont privilégier des températures douces vont favoriser, ou plutôt vont empêcher, le développement de ces molécules inflammatoires. Et puis, dernier conseil, pour tout ce qui est régime d'exclusion, on l'a déjà dit, mais je préfère le répéter, gluten, produits laitiers ou que sais-je encore, peut-être vous avez entendu parler des lectines aussi, c'est la dernière petite mode aux États-Unis. Bon, on va pas en parler là maintenant parce que ça complexifierait le sujet, mais je vous invite à vous faire accompagner si vous avez envie d'essayer d'enlever un certain nombre de ces choses. Aussi, si vous avez remarqué des symptômes avec le lactose ou les fructanes, et que vous vous dites peut-être une alimentation pauvre en FODMAP serait intéressante. Et effectivement, ça donne des bons résultats chez un certain nombre de personnes, mais ça doit être très bien conduit. Parce qu'encore une fois, le problème de ces régimes d'exclusion, c'est qu'on peut appauvrir son microbiote, avoir des carences nutritionnelles, avoir une vie sociale totalement amoindrie parce que on pense plus qu'à ça, on pense plus qu'à avoir une alimentation complètement dans les clous et donc on n'ose plus sortir, etc. Et tout ça, c'est évidemment pas favorable. Donc voilà, vigilance avec ce type de solution. On ne les exclut pas d'emblée, mais on essaye de faire ça de la manière la plus raisonnable possible.
D'accord, donc du coup, on privilégie une alimentation anti-inflammatoire, on essaie de cuisiner maison dans la mesure du possible, on reste flexitarien, c'est pas mal ça ce terme-là, je ne connaissais pas, c'est un terme qui me plaît bien. On privilégie les cuissons, donc basse température ou température douce, et on est accompagné d'un professionnel de santé pour tout régime d'exclusion.
Ouais.
D'accord.
Ça me paraît bien résumé. Merci Florence.
Et du coup, j'en profite pour dire que sur ton compte Instagram, c'est super intéressant parce que tu proposes souvent des tips comme ça et des recettes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de Sophie. Il y a un nom, c'est Sophie Janvier.
Sophie Janvier Nutritionniste.
Voilà, Sophie Janvier Nutritionniste. Vous trouverez déjà des petits conseils. Et puis, bientôt, donc on communiquera sur la sortie de ton programme d'accompagnement qui se fera du coup en digital, hein, c'est ça, 100% digital.
Oui, c'est ça. Alors, vous pouvez déjà avoir un tout petit début d'explication sur mon site internet et laisser vos coordonnées si ça vous intéresse d'être contacté.
Ah, d'accord.
Pour en savoir plus quand il va sortir.
Merci beaucoup. Ok. Alors, on termine toujours ce podcast par une question. On parle beaucoup de chez Mapato, de l'expérience patient réussie. Selon toi, quelles seraient les clés pour qu'une patiente, justement, soit satisfaite de son expérience avec son soignant ou sa soignante?
Pour moi, c'est une question de ce que j'appelle d'accordage, en gros. L'idée, c'est qu'on ait réussi à parler le même langage, ou plutôt non, pas le même langage, mais un langage commun. Un langage qui fait qu'on est en capacité de se comprendre, que moi, en tant que soignant, j'ai bien compris les besoins, j'ai bien compris les attentes, que le patient sente qu'il est entendu, qu'il est cru. Et c'est fondamental, hein, dans l'endométriose, on sait à quel point il y a eu, heureusement beaucoup moins maintenant, la parole des femmes qui a été mise en doute et du coup de l'errance diagnostique. Donc voilà, cet accordage, c'est-à-dire moi je fais confiance et on me fait confiance aussi et j'écoute beaucoup, je prends du temps pour cerner tous les détails finalement de ce que représente cette maladie au quotidien pour ma patiente, et donc de comment on va pouvoir trouver des solutions qui soient les plus adaptées. On est vraiment dans le sur-mesure. Je pense que voilà, je pense qu'une patiente est déjà satisfaite quand elle sent qu'on a essayé de tout faire pour l'épauler. Après, je suis pas magicienne, j'ai pas de baguette magique, donc ça veut dire que j'ai un arsenal de propositions et j'essaie de trouver les propositions qui vont être les plus adéquates par rapport à ce que je sais, encore une fois, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu de l'histoire de la patiente. Et voilà, et on teste et on cherche les solutions les plus adaptées pour que ça fonctionne le mieux possible. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment une histoire d'accordage.
Ouais. On est complètement raccord hein, avec ma patho de donner la parole effectivement aux patients et de s'adapter à chacun, chacune d'entre nous. Le podcast se termine. Sophie, un grand merci pour ta disponibilité et de nous avoir d'avoir pris ton temps pour nous expliquer ce sujet qui est, je trouve, passionnant, qui est vraiment intéressant et qui vraiment fait partie du quotidien de nous tous et là particulièrement des patientes atteintes d'endométriose.
Oui, d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que en fait, ce qui souvent est intéressant avec l'alimentation, c'est que c'est finalement un des rares paramètres avec l'activité physique sur lequel on a vraiment prise. Parce que quand on a une maladie, on est parfois un peu dépendant des traitements médicamenteux, des solutions thérapeutiques qui nous sont. Alors que l'alimentation peut vraiment se prendre en charge, être acteur finalement de sa thérapeutique. Même si, encore une fois, je préfère vraiment le redire, il ne faut pas non plus attendre, ça ne va pas soigner l'endométriose, on est bien d'accord. Ça va permettre d'accompagner au mieux les symptômes et d'avoir une qualité de vie meilleure. Et c'est déjà un point intéressant et peut-être aussi de ralentir l'évolution de l'endométriose.
Oui, voilà, c'est un outil parmi tant d'autres pour pouvoir agir sur la maladie. Et puis, on mange quand même trois fois par jour, hein, donc c'est quand même, ça fait vraiment partie de notre vie, quoi. Donc,
exactement.
Voilà. Eh bien, écoute, merci Sophie. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée et à vous tous et à toi.
Merci, bonne journée à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.